Bonjour à tous. Tout d'abord, désolé, on est un peu aveuglé, donc on va avoir du mal à vous voir. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est un sujet autour du temps et de l'espace, notamment sur un média qui est le jeu de rôle. Avant cela, j'ai quelques mots à dire. Tout d'abord, en tant que membre d'une communauté qui est celle du jeu de rôle, je voudrais laisser un petit mot à l'égard d'une de nos collègues qui nous a quittés, qui s'appelle Isabelle Perrier. Donc, je voulais la remercier maintenant qu'elle nous a quittés pour tout son investissement au nom de l'ensemble de la communauté, hein, des joueurs qui l'avaient comme soutien. Voilà, ça c'est fait. Je voudrais aussi faire un petit point sur le programme. Il y a quelques coquilles sur le programme papier, donc sur les différentes informations que vous avez autour du pôle ludique. Je vous invite quand même à aller sur le site web qui est lui mis à jour. Donc vous aurez des informations beaucoup plus pertinentes. On a eu une petite erreur de communication qui est certainement de notre part. Voilà. Donc on va commencer. Je reconnais quelques têtes dans la foule. Par un petit tour de table de présentation. Messieurs, je vous laisse faire.
Donc bonjour à tous, je m'appelle Mac Kilron. Je m'occupe aujourd'hui du site expérience-jdr.fr qui a pour but de faire découvrir les mécaniques et le jeu de rôle aux gens via des systèmes numériques. Et à côté, je donne des conseils, je travaille auprès d'associations, etc. pour transmettre le savoir des maîtres du jeu que j'ai pu acquérir auprès de mes confrères et perpétuer les choses via des supports numériques, écrits, etc.
Ok, alors moi je suis Julien Poire, j'anime un podcast qui s'appelle Les Voix d'Altaride. On fait des émissions où on parle de jeux de rôle essentiellement toutes les deux semaines en direct. Et en dehors de ça, j'écris des jeux sans MJ parce que la sagesse des maîtres du jeu est intéressante, mais pas universelle. Exactement. Et voilà, et j'interviens pas mal dans le milieu release de ce point de vue-là.
Bonjour, je m'appelle Manuel. Bonjour, Manuel. Moi aussi je fais un podcast. Voilà. Qui s'appelle Ludologie, où on parle de jeux de rôle, de jeux vidéo, de jeux de société et du jeu en général comme objet social, culturel. Et sinon, je fais des jeux de rôle, de société et vidéo, un peu aussi, avec et sans MJ.
Ah, lui, c'est celui qui est très fort de notre.
Bon, en fait, aujourd'hui. Très rapide tour de table, on va faire un petit peu une ventilation de certains objets de la science-fiction, notamment des choses comme le voyage dans le temps, comme je sais plus d'ailleurs ce qu'on avait noté, c'était la téléportation, pardon, les notions de multivers. Si on a le temps, on touchera d'ailleurs aussi un autre sujet qui m'intéresse pas mal, moi, c'est le temps du rêve et comment on s'en sert en fait dans le jeu de rôle. À quoi ça sert, comment on s'en sert, quels jeux s'en servent, quels jeux en font un objet ludique d'ailleurs. Je vous propose les gars de commencer notamment par la notion de multivers. On a la chance d'avoir Monsieur Moorcock hein, pendant ces utopiales. C'est un sujet un petit peu à la mode. Comment on s'en sert du multivers? Qui s'en sert?
Alors moi j'ai commencé parce que le cycle d'Elric et les jeux de rôle Stormbringer, Elric et Mournblade sont mes premiers amours et j'y reste depuis encore et encore. La mise en scène en fait du multivers, hein, parce que le cycle des jeux, enfin le monde des jeunes royaumes en fait est une représentation alternative en dark fantasy de ce que pourrait être notre monde aujourd'hui. Et donc Moorcock joue là-dessus. Sur la mise en œuvre en fait des millions de sphères, d'une infinité d'univers, de réalités alternatives avec laquelle on peut jouer. Donc en termes de mécanique de jeu de rôle, on peut faire voyager les joueurs d'un plan à l'autre afin de leur faire connaître une réalité très similaire mais différente sur certains points pour les déstabiliser, pour enrichir leur expérience de jeu, etc.
Je peux citer plusieurs jeux que j'aime beaucoup qui exploitent cette thématique-là. On va commencer par un jeu qui n'est pas très connu, qui s'appelle Broken Rooms, qui est un jeu qui nous propose de jouer dans 13 versions alternatives de la Terre et la nôtre. Et on joue des gens qui sont capables de voyager dans ces versions alternatives. Et le concept de ce jeu, c'est qu'il y a eu une apocalypse différente sur chacun de ces mondes-là, sauf sur la Terre. la Terre Zéro, comme ils l'appellent, et on va pouvoir donc voyager dans différentes versions post-apo du monde. Et c'est quelque chose qui est très, très plaisant. On peut se, par exemple, une situation que j'aime bien mettre en place quand je présente ce jeu-là, c'est démarrer un matin pour aller prendre son métro. Tout simple, hein, bon, je suis parisien. Pour aller prendre son métro pour aller bosser ou pour revenir de soirée, son transport classique, etc. Et se retrouver finalement projeté dans un autre univers où les humains ont quasiment disparu, où la nature a repris le dessus, les animaux sont devenus très sauvages, et essayer de revenir dans son monde d'origine. Donc ça, c'est un genre d'histoire qu'on peut mettre en place. J'avais écrit un scénario dedans qui est dispo dans un vieux numéro des Chroniques d'Altaride. Voilà. Et sinon, deuxième jeu qui est très intéressant dans son traitement de cette situation-là, c'est un jeu qui s'appelle The Strange, qui a été écrit par l'équipe qui a écrit Numenera aussi, si vous connaissez. Et dans ce jeu-là, le voyage vers les mondes parallèles s'accompagne d'une transformation du personnage. On parle d'une traduction du personnage vers l'univers de destination. Il y a un des univers, par exemple, qui est en gros inspiré d'un MMO, médiéval fantastique, et dans lequel, si on est, je ne sais pas moi, un agent du FBI dans la Terre normale, quand on y passe, on peut se retrouver sous la forme d'un archer-elfe ou je ne sais quoi, comme s'il y avait une sorte d'avatar qui se créait à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est juste deux exemples de la façon dont des jeux peuvent traiter ce voyage entre les mondes du multivers et autour de, globalement, l'exploration, quoi. Voilà.
Manuel, sur le sujet.
Moi, ça me pose plus de questions que je n'ai des réponses à donner, parce qu'on pourrait faire du name dropping, ce serait rigolo. Des jeux qui travaillent sur le multivers, il y en a quand même un certain nombre, dont le moins célèbre n'est pas Ambre. Voilà, j'ai fait ma part de name dropping. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est comment on en fait des mécaniques ludiques. Comment on peut raconter des histoires où on raconte que des bonhommes vont passer d'un monde à l'autre. Ce qui n'est pas spécifique au jeu de rôle, en fait, mais en jeu de rôle, là où moi je trouve que ça commence à devenir intéressant, c'est quand dans les mécaniques elles-mêmes, il se passe des choses qui portent cette histoire-là. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est sur The Strange en termes de transformation. Est-ce qu'on change de fiche de personnage chaque fois qu'on change de monde, par
Absolument.
Exemple
Absolument. Ta fiche de perso est en deux parties.
Ben voilà, ça, typiquement, c'est des choses intéressantes à travailler. Il y a des trucs à faire, hein, mais c'est... je pense que c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est beaucoup travaillé quand même. Transmettre mécaniquement ce passage, ce basculement, au-delà de juste raconter l'histoire de Sliders, quoi. Dans Ambre, il y a quand même des tentatives là-dessus, mais l'approche de Ambre est un peu différente. C'est-à-dire que c'est pas des personnages que vous connaissez un petit peu peut-être déjà, j'imagine. En gros, c'est inspiré de Zelazny, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est inspiré du cycle des princes d'Ambre. Et le principe, c'est qu'on joue des membres d'une famille royale qui règne sur le multivers. Et en fait, c'est pas qu'on se balade d'un univers à l'autre, c'est qu'on crée les univers au fur et à mesure qu'on rentre dedans. Ce qui est assez riche, assez intéressant comme approche. Et du coup, mécaniquement, ça se traduit par le fait que le joueur va pouvoir déclarer des choses sur l'univers dans lequel il rentre, alors que c'est un jeu avec meneur, hein, mais comme le joueur crée l'univers dans lequel il rentre, il peut déclarer des choses. Donc, ça permet de faire autre chose qu'un jeu d'aventure où à un moment, le meneur nous dit bah « Là, vous passez une porte et vous êtes ailleurs. » Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Je sais pas s'il y a énormément... Je sais pas si cette modalité-là est la plus travaillée, mais oui, je pense que ça peut être intéressant.
Non, je pense qu'on est beaucoup plus sur des référents comme Mega, qui sont très, très mécanisés, où le principe, c'est justement des joueurs qui vont devoir aller dans des univers pour pouvoir, je dirais, apporter un peu de contrôle là-dedans. Et là, on est vraiment dans un principe beaucoup plus déterminé par le meneur de jeu, au contraire. Ambre, c'est un peu une... Je pense qu'Ambre est un peu un cas particulier.
Au niveau mécanique particulière, il y a un jeu qu'on devrait citer qui est Torg. Donc, dans Torg, différentes réalités envahissent la Terre. Et ce qui est intéressant, et un des points les plus intéressants du jeu pour moi, c'est que chacune de ces réalités est déterminée à partir d'un certain nombre d'axiomes numériques, axiomes sociaux, technologiques, magiques, etc. Ce qui fait que les personnages de ces différents univers sont capables de fonctionner dans ces axiomes-là, mais quand ils voyagent dans un des autres mondes qui ont envahi la Terre, ils se retrouvent dans une situation où ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser fonctionne plus ou moins bien. Il y a un monde qui utilise beaucoup de cybertechnologie, d'implants cybernétiques, de membres cybernétiques, etc. Et ces gens peuvent se retrouver dans un monde ailleurs sur Terre, parce que c'est localisé dans différentes zones terrestres, dans lequel tout cet aspect-là ne fonctionnera plus ou très mal. Et donc il y a tout un jeu autour de ça, autour de la transformation du personnage plus ou moins volontaire, plus ou moins involontaire, et avec des éléments mécaniques et le fait que... cette idée de multivers est vraiment au cœur du jeu, puisque les personnages sont censés essayer de repousser ces invasions et donc de rétablir la réalité terrestre habituelle dans l'ensemble du monde. Voilà. Ça s'appelle d'ailleurs la guerre des réalités, si je ne m'abuse.
Là encore, c'est un jeu assez vieux. Je crois que c'est
assez vieux. Il vient d'être réédité.
Voilà.
Totalement.
Oui, il vient d'être réédité.
Ok. On passe au suivant. Vous propose le sujet de la téléportation qui nous donne quand même pas mal de possibles. Qui c'est qui sert de ça d'ailleurs?
Alors, je vais citer les copains.
Allez.
La téléportation, c'est intéressant quand on regarde un peu ce qu'en disent les scientifiques, et notamment le fait que globalement, pour téléporter des gens, ce qu'il faudrait, c'est en gros transformer en données ce qu'ils sont, puis les détruire et les reconstruire ailleurs. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'a priori on pourrait s'y prendre. Steve Jakubowicz a fait un jeu qui s'appelle Plus vite que la mémoire, qui est un tout petit jeu qui est téléchargeable gratuitement, où on joue deux membres d'un couple qui vient de se téléporter, mais avec la destruction il y a eu une perte de mémoire, et donc ils vont retrouver leur mémoire au fur et à mesure. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'ils se reconstruisent dans un nouveau lieu, ils se reconstruisent en tant qu'individu l'un face à l'autre. En plus, ça fait des gros clins d'œil à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, il y a des trucs intéressants comme ça à faire avec la téléportation. J'ai l'impression que le domaine, la typologie de jeu où c'est le plus utilisé finalement, c'est le Medfan avec les sorts des magiciens, presque plus que dans la science-fiction lointaine futuriste.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un sujet là qui est purement SF et qui est dans l'adaptation, dans le jeu de rôle, est vraiment lié à quelque chose de Medfan, quoi.
Dans la mécanique de jeu, ça s'explique assez bien, en fait. Le souci de la téléportation qu'on voit en jeu de rôle, c'est le contrôle de ce qu'elle permet de faire. Parce que c'est un excellent moyen de bousiller n'importe quel scénario. D'accord ? Ce qui n'est pas pour me déplaire personnellement. Hein ? Brûler vos scénarios, vous vous en porterez mieux, mais... Je provoque. Mais du coup, si on est dans un paradigme technologique, l'idée c'est que la technologie, on va pouvoir l'utiliser quasiment à volonté. Il y a très peu de limites sur l'utilisation de la technologie. Les téléporteurs, si on prend l'exemple de Star Trek, on a la téléportation dans son vaisseau et on peut l'utiliser un peu à tort et à travers. Et dans beaucoup d'épisodes, le concept de l'épisode est basé sur le fait que, mince, aujourd'hui la téléportation ne fonctionne pas. Bon. Donc ça, c'est la limitation en fait de la téléportation. Quand on est dans un contexte Medfan, avec beaucoup de téléportation, souvent c'est lié à la puissance intérieure du personnage, au magicien qui va l'utiliser. Et cette puissance-là, dans la plupart des jeux qu'il utilise, elle est limitée. Soit elle est limitée parce qu'on est dans un système de magie un peu ancien dans lequel on utilise son sort, on l'oublie, on ne peut plus l'utiliser pour la journée, ça c'est Donjons et Dragons classique, quoi. Et dans les cas où il y a moins de limitations, soit ça va coûter beaucoup de ressources, parce que c'est puissant, soit ça va être très dur à utiliser. Avec tous les accidents qu'on peut imaginer, qui peuvent être des moyens de faire rebondir le scénar de façon très intéressante, ou alors au contraire de mettre fin à la vie des personnages de façon tragique et immédiate.
En fait, la grosse problématique de l'utilisation de la téléportation au sein du JDR, c'est de savoir la cadrer avec justesse. En termes de Medfan, voilà, comme l'a dit Julien, la puissance du personnage lie beaucoup. Il a souvent une puissance magique, etc. Et c'est ça qui va déterminer ce qu'on peut en faire. À trop donner de pouvoir à un joueur, en effet, on peut très vite casser le scénar et avoir certaines problématiques. En SF, enfin moi, quand je maîtrise de l'éclipse phase ou d'autres choses comme ça, un peu futuristes, ce que j'essaie de faire, c'est de cadrer, de risquer aussi l'usage de ces pratiques-là, afin de faire prendre conscience aux joueurs que voilà, on peut faire de grandes choses, mais on a aussi certaines limitations. Et il faut savoir voilà, cadrer, l'utiliser avec parcimonie pour l'expérience de jeu de tout le monde.
Est-ce que vous avez des exemples de parts de risque justement liées à la téléportation qui pourraient être amenées en termes ludiques à créer une intensité, une tension pour les joueurs ?
Bah, en termes de risque mis en place, concrètement, c'est, enfin moi, c'est généralement c'est le risque de perdre un membre.
Ouais.
Très clairement, voilà, c'est de se retrouver, j'ai plus qu'un bras sur deux, donc il va falloir que j'évolue en fait, soit pour réussir à via un autre biais de téléportation, vu qu'on part sur de la destruction, reconstruction, à récupérer ce que j'ai perdu, soit sinon à devoir me réadapter en fait à ces nouvelles contraintes. Donc de ce côté-là. Mais voilà. C'est un exemple.
T'as la possibilité de détournement de téléportation avec effectivement une arrivée à l'endroit qui n'était pas prévu, éventuellement mise en œuvre par des agents extérieurs. Et là, tu peux rebondir justement avec une sorte de d'enlèvement des personnages réalisé par ce biais-là, quoi.
Ouais, c'est un peu l'effet TARDIS, quoi. C'est-à-dire que tu prévoyais d'aller à un endroit parce que tu avais décidé des trucs et t'étais tranquille. Et puis il y a autre chose, la machine qui a décidé que finalement l'aventure elle était là. C'est quand même un formidable outil de contrainte de la part du meneur pour les joueurs. Hein. C'est quand même la grosse arnaque, quoi. C'est-à-dire que vous laissez croire aux gens qu'ils vont aller où ils veulent et en fait vous les emmenez exactement où ça vous arrange. C'est un petit peu malhonnête, on va pas se mentir. Moi j'utiliserais avec parcimonie ce genre de choses.
Ah, moi je l'utiliserais simplement en demandant aux joueurs, bon bah voilà, vous n'arrivez pas où vous vouliez, où est-ce que vous arrivez.
Ok, voilà, on fait n'importe quoi en fait.
Ah bien sûr. Ouais, mais sinon, il y a quand même un truc intéressant sur l'idée de téléportation qui est l'idée de déplacement instantané. Parce qu'en fait, on s'en sert finalement du point de vue de la structure du récit extrêmement fréquemment quand on fait des ellipses en jeu de rôle, qu'on veut pas jouer le voyage. Eh ben, au lieu de jouer le voyage, on était dans notre premier village et puis bon, on dit bon voilà, le voyage se passe bien et paf, on est arrivé au nouveau village. Est-ce que c'est très différent de la téléportation ça finalement?
Non, pour moi c'est très très proche, mais je pensais à un autre exemple aussi qui est celui de Seven Seas qui propose en fait pour les, on va dire, pour les représentants nobles d'une population qui s'inspire beaucoup de la France puisque c'est la montagne, qui propose en fait une magie dite portée où on déchire une espèce de voile, où c'est extrêmement violent aussi d'un point de vue psyché pour les joueurs puisque on traverse des espèces de mares de sang crado. C'est assez intéressant parce que du coup c'est aussi ça régit un pouvoir, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'on est, on est ici sur une caste qui possède cette magie, qui est capable d'en faire quelque chose, qui est donc à contre-pied du reste de la population de ce monde-là, mais qui s'en sert de pouvoir et qui, du coup, pour les joueurs, est assez peu accessible. Et c'est souvent des choses subies pour les joueurs.
Je sais qu'on est censé parler du temps du rêve après, mais en fait, il y a un jeu qui gère de façon très intelligente les problématiques de monde parallèle, de téléportation et puis d'autres trucs qu'on parlera après. Enfin, vraiment, ils les mélangent tous intelligemment. Et ce serait dommage de passer à côté. C'est Rêve de Dragon qui utilise pas mal de. Je sais pas si vous connaissez. Si, c'est un jeu français classique, il est réédité, tout ça. Qui utilise vraiment beaucoup de choses. En premier lieu, Rêve de Dragon, c'est un jeu qui traite de l'onirisme et qui joue du coup sur toutes les déformations qu'on peut avoir dans des rêves, à savoir passer d'un décor à l'autre sans même s'en rendre compte, avoir des ellipses de temps bizarres. Et il utilise pour ça plusieurs mécanismes. Alors le premier qui est en plus un outil de MJ, mais pareil, un truc hyper malhonnête, ça s'appelle le gris rêve dans Rêve de Dragon. Entre les aventures, les personnages sont dans le gris rêve. On ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop ce qui leur arrive, mais quand l'aventure commence, ils émergent du gris rêve. C'est l'arnaque totale pour dire on ne sait pas ce qui se passe entre les scénarios, mais là il va se passer un truc important et c'est ce qu'on va jouer. En gros, ce qu'on ne joue pas existe pour les à une dénomination, mais n'existe pas vraiment dans l'histoire des joueurs. Donc on n'a jamais besoin de leur poser la question « qu'est-ce que ton personnage a fait pendant ce temps-là » Parce qu'on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet très aisément, derrière ça donne des choses mécaniquement, ça permet facilement de changer l'équipement des joueurs s'il y a besoin, par exemple. Ça permet facilement de faire rentrer un joueur dans une partie même s'il n'était pas avec les autres avant parce que son personnage, enfin tous les personnages sortent du gris rêve, et ben là ils sont avec, avec une nouvelle bande sans avoir à se poser la question de pourquoi ni de comment ils sont arrivés là, parce que c'est jamais l'enjeu. Donc ça répond à des problématiques de jeu, notamment à l'époque ça répondait à des problématiques de jeu en club, à l'époque où il est sorti de tiens, il y a Jérémy qui vient jouer ce soir avec nous, il joue jamais d'habitude, comment est-ce qu'on justifie ça? Mais il a trouvé des justifications diégétiques dans le jeu pour jouer ça, et puis ça permet aussi de jouer justement des espèces de téléportation, c'est-à-dire que on a fini l'aventure à un point A, on recommence l'aventure à un point C, et puis peut-être que là-dedans, il va y avoir comme enjeu à un moment d'aller refouiller dans un truc dont on n'a aucun souvenir qui est le gris rêve au milieu pour retrouver le point B parce que ça nous aide à résoudre des situations. Et du coup, on commence à rentrer aussi dans des problématiques d'amnésie dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui pour moi collent assez bien avec les enjeux de téléportation puisque on est passé subitement d'un point A à un point B. Dans l'absolu, il a pu se passer quelque chose dans l'intervalle dont on n'a pas souvenir, dont on n'a pas connaissance, et il peut y avoir des choses à creuser là-dedans. Donc ça, c'est chouette. Et en plus, je garde le micro, il y a aussi un truc qui s'appelle les déchirures du rêve qui sont des portes pour passer d'un univers à l'autre et des portes à sens unique, ce qui permet de créer des choses intéressantes aussi en termes de récit. Il se trouve qu'en plus dans Rêve de Dragon, les règles sont vraiment intrinsèquement liées aux mécaniques, à l'univers de façon vraiment précise, et on peut distinguer ou on peut deviner quand il va y avoir une porte et comment ça va être un enjeu de récit. Et les récits sont vraiment construits sur des enjeux de mémoire, de retour dans le temps, de passage d'un univers à l'autre, de mise en parallèle de deux univers. Enfin, il y a vraiment des trucs assez riches à trouver dans ce jeu-là. Pas tant dans le jeu de base, qui est quand même pour moi un peu laconique sur le sujet. Par contre, dans les scénarios qui ont été édités, il y a vraiment des super idées pour le jeu sur le temps. Voilà.
C'était long. Si je ne m'abuse, Hurlement aussi fonctionne un peu sur les mêmes principes.
Alors c'est fort possible, mais moi j'ai lu que Chimère, j'ai ni lu ni joué à Hurlement, donc je ne saurais pas dire.
Bon, pour ceux qui connaissent, c'est français, c'est très très bon. Bref.
Et c'est vieux.
Mais finalement, moi dans cette discussion, il y a une question qui m'interpelle. Téléportation, monde parallèle, on va parler un peu du temps tout à l'heure, du temps du rêve, etc. Pour moi, la question, elle est finalement, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je donne ça uniquement à disposition d'un meneur de jeu pour structurer ses scénarios, etc. ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un outil que je mets entre les mains des joueurs pour voir ce qu'ils vont faire avec ? Et je vous avoue que moi, ce qui m'intéresse plus dans cette histoire-là, c'est je donne l'outil, je regarde ce que les joueurs vont en faire, et ensuite, ce qu'on va pouvoir rebondir dessus. Et je trouve que c'est beaucoup plus riche, et qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les jeux qu'on a cités sont des jeux assez anciens, dans lesquels ces problématiques-là, enfin, sauf Faster Than Memories de Steve, toutes ces problématiques sont laissées entre les mains du meneur de jeu pour écrire ses scénarios, en gros. Qu'est-ce que ça donne quand on laisse la possibilité aux joueurs de contrôler ces éléments-là ? Et moi, je pense que c'est ça qu'on devrait aujourd'hui essayer d'explorer.
En fait, il y a une mécanique qui peut être mise en place, je vais dire, par le maître du jeu, entre guillemets, hein. C'est l'utilisation en effet des rêves, des flashbacks. C'est-à-dire que quand vous construisez votre personnage, vous ne construisez pas un personnage qui est enfant, généralement, à part certains jeux qui sont conçus pour, mais vous constituez un personnage qui a déjà une certaine expérience, un certain background, et en fait, en donnant l'outil de pouvoir enrichir, de creuser son background, en essayant de savoir si on a pu avoir des souvenirs de ci ou de ça, de tel événement passé, potentiellement du lore, etc., afin d'enrichir ses connaissances dans un domaine ou un autre, voilà, utiliser tout ce qui va être le flashback, des souvenirs, pour construire, pour peut-être donner une implication supplémentaire dans les scénarios, dans l'aventure que chacun va jouer, mais aussi voilà, se servir du passé de chacun pour construire l'avenir.
Encore une fois, pourquoi laisser ça entre les mains du meneur ?
Alors, pourquoi laisser ça entre les mains du meneur ? Parce qu'il faut quand même cadrer les choses.
Bah, je te prends un exemple, un jeu beaucoup plus récent qui s'appelle Blades in the Dark. Dans ce jeu, tu vas jouer des casses, en fait. Mmh. Et en jouant des casses, tu vas faire ton plan avant le casse. Sauf qu'au lieu de passer 3 heures à préparer ton plan aux petits oignons, pendant que le meneur de jeu est en train d'aller dormir, parce que c'est les joueurs qui sont en train de le faire, tu vas juste dire quel type de plan tu fais, tu vas faire des jets de dés, tu vas voir combien d'options tu as dessus, et tu vas ensuite pouvoir faire intervenir ces éléments de plan au moment où tu en as besoin, et les définir au moment où tu en as besoin, en racontant justement un flashback.
Donc, ce coup-ci, ton cadre d'être défini par ton maître de joueur, ouais, de jeu, en fait, est tout simplement défini par ton gameplay.
Ouais. Bah oui. Mais c'est mieux, en fait. Donc ça y est, on parle de voyage dans le temps, là, c'est ça ?
Bah, c'est ce que j'allais dire.
Parce que les flashbacks et les flash-forward, on va pas se mentir, c'est quand même du jeu sur le voyage dans le temps. Ce dont vient de parler Julien, là, cette histoire de on revient en arrière dans Blaze in the Dark, ça existe dans d'autres jeux. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet Ocean's Eleven, où on pensait que le plan est complètement foiré, et en fait, c'est comme si le protagoniste, le joueur de l'histoire disait « Non, mais en fait, le type, là, qui est censé me casser la gueule, c'est un pote, je le connais, je l'ai payé avant, et c'est lui qui me permet d'accéder au coin qui était pas, je pointe personne de doigt spécialement, qui me permet d'accéder au coin, au coffre-fort. Et c'est des trucs qui marchent vraiment. Alors, pour faire des ambiances de casse ou d'espionnage, c'est des choses qui marchent vraiment, vraiment bien, que les joueurs aient de la ressource qu'ils puissent dépenser pour justifier a posteriori des choses qu'ils auraient fait avant sans avoir eu à les expliquer avant. Ça évite tous les effets de plans qui partent en sucette, qui sont très très familiers de plein de jeux de rôle où on passe 3 heures à faire un plan qui tiendra 5 minutes au mieux. Donc ça donne des choses vraiment vraiment intéressantes, et de même on peut travailler les flash forward. Les flash forward narrativement, ça se travaille beaucoup avec les prédictions. Et c'est hyper casse-gueule de dire « Ok, dans 3 jours, il va se passer ça. » Parce que du coup, on se met une contrainte de récit assez, assez violente, même si on donne la main aux joueurs. Ça demande un bon niveau de coopération entre les différents joueurs pour dire « On sait qu'il va se passer ce truc-là, donc on décide d'y aller ensemble. Et ce qui va nous intéresser, c'est comment on le construit. Dans 3 jours, le pont va s'écrouler. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye de l'empêcher de s'écrouler et qu'on est dans la prophétie auto-falsifiante ou auto-réalisatrice ? Je ne sais plus. Voilà, ça, c'est des trucs hyper compliqués sur les flash-forward, mais qui correspondent à un voyage dans le temps, dans le futur, concrètement. C'est des thématiques qui sont travaillées dans beaucoup de bouquins de SF, de maintenant que je connais le futur, comment est-ce que je vais gérer avec ça ? Est-ce que le fait que je le connaisse le provoque ? Enfin, voilà, ça pose quand même pas mal de questions. Et comme le jeu, contrairement au roman ou au cinéma, est un média fluide, c'est-à-dire que on construit l'histoire au fur et à mesure qu'on la découvre, et on le fait à plusieurs, ça donne des choses un petit peu effectivement délicates à manipuler, mais à partir du moment où on a décidé, mon opinion personnelle, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à décider de jouer avec l'écoulement du temps, à un moment ou un autre, il faudra faire le deuil d'une structure d'histoire parfaitement cohérente de A à Z sans aucun problème. Et il faudra s'autoriser le fait de dire « Oh, attends, parce que là, on a peut-être un peu déconné, parce qu'on avait dit qu'il allait se passer ça plus tard, mais comme on a fait ça, en fait, ça, c'est pas possible. Et pourquoi pas revenir en arrière ou refaire une pause ou reformuler des trucs, ce qui est possible en jeu de rôle. » Et je pense qu'effectivement, un jeu qui joue sur ces idées-là, il a besoin de s'équiper mécaniquement et de prévenir ses joueurs que des fois, on va tâtonner, quoi. Et c'est pas forcément grave.
Après, tu as aussi des méthodes pour que ça n'arrive pas, qui est par exemple de décaler ton flash-forward bien après la partie. Tu joues pas sur les mêmes enjeux, tu vas pas jouer sur le fait de « est-ce que si je connais le futur, je vais le modifier ?» J'ai pas mal d'exemples sur le sujet, mais un exemple simple, imaginons qu'on rencontre un personnage, un PNJ, un contact, on va parler à un contact. C'est la première fois que notre perso le rencontre. On peut très bien s'imaginer décrire à ce moment-là, passer en flash-forward et décrire la scène 10 ans après. Quelle est la relation qu'on a tissée avec ce personnage-là ? En imaginant ça, en posant cet élément-là, quand on revient dans le présent, on ne va pas considérer ce contact de la même manière. Donc ça, c'est un élément, un exemple. Un autre exemple que j'ai utilisé dans un jeu que j'ai fait pour le concours Game Chef qui a eu lieu cette année. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, le Game Chef, c'est un concours. En 9 jours, on écrit un jeu avec un nombre de signes maximum, avec des thèmes imposés. Voilà, je n'en dis pas plus. Et dans le jeu que j'ai fait cette année, j'utilise cette mécanique de flash forward. Globalement, on joue des policiers chargés en gros de réguler des débordements de foule en absorbant leurs émotions. Voilà, pour faire très très simple. Je voulais une mécanique qui me permettait de jouer le moment où le policier en question revient chez lui et où ce qu'il a vécu dans la journée va l'affecter et va affecter sa vie. Et la façon dont j'ai structuré le jeu, je me suis dit non, en fait on va surtout jouer les scènes de foule, alors c'est un tout petit jeu, hein, donc il ne propose pas 50 000 trucs, on va surtout jouer les scènes de foule, d'émeutes qui commencent à démarrer, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer en flash-forward, quand le personnage veut se vider, entre guillemets, de son trop-plein d'émotions, on va jouer un flash-forward chez lui plus tard, où il va pouvoir transférer ses émotions sur ses proches. Et du coup, ça n'a pas d'influence sur l'action immédiate, ça a une influence mécanique claire, et on ne rejouera pas plus tard cette scène-là parce qu'elle n'est pas dans la focalisation du jeu. Voilà. Deux petits exemples alternatifs, et il y en a des dizaines et des dizaines. Mais je suis d'accord avec ce que disait Manuel aussi.
A contrario, moi je dirais du flash-forward, on a aussi le flashback avec lequel on peut énormément jouer. Alors, avec lequel, enfin moi en tant qu'MJ, j'aime jouer parfois pur sadisme, entre guillemets. De jouer sur des dramatismes de personnages, des situations passées, très dures à vivre, jouant sur l'affect, etc., pouvant des fois mettre en œuvre de nouveaux défis pour les joueurs. C'est-à-dire que face à une action réveillant un traumatisme passé,
tout simplement comment le joueur va lui réagir, comment il va construire la suite de l'intrigue, parce que tout simplement un joueur peut se retrouver face à un blocage psychologique sur un événement passé qui va bloquer une progression. Donc après il va avoir la coopération pour moi avec les autres joueurs afin d'aider à avancer, surmonter parfois ce traumatisme si possible, etc., pour continuer l'intrigue sans que ce soit bien sûr trop bloquant pour tout le monde, parce qu'il faut pas que ce soit un obstacle insurmontable si on foire son jet de dés ou sa narration ou voilà. Mais savoir jouer avec un flashback, avec des émotions, avec de l'affect, déjà savoir le retranscrire au sein de la partie aussi améliore l'expérience de tout le monde, et c'est pas forcément très simple à faire. Mais il faut voilà jouer avec le futur, mais jouer aussi avec le passé.
À ce niveau-là, je suis obligé, par contrat, d'invoquer la carte Thomas Munier, donc un auteur de jeux de rôle français qui joue énormément avec cette déstructuration de la narration, avec les flashbacks, les flashforwards, etc. Et un exemple qu'il utilise, dans un jeu qu'il a fait jouer ici d'ailleurs, l'an dernier ou il y a deux ans, je ne sais plus, qui s'appelle Odyssea.
Qui est vachement bien et pas cher.
Voilà, en plus. Dans lequel on rejoue en gros l'Odyssée, mais dans l'univers de Thomas Munier. Dans cet univers-là, pour qu'un bateau quitte une île et qu'on puisse continuer le voyage, c'est sur le mode de la tragédie grecque, il faut sacrifier quelqu'un. Il est face à des joueurs qui s'inventent instantanément un enfant à sacrifier. Bon, ok, c'est un thème un peu sensible.
Pauvres enfants.
Sauf que Thomas, évidemment, va pas les laisser faire. Il disait, ouais, mais là, vous m'inventez un enfant, vous le sacrifiez dans l'eau, en gros, il compte pas pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire jouer un flashback. Au moment de la naissance de cet enfant, au moment où, et en plus comme il s'amuse beaucoup à mélanger la perception des personnages, et le personnage a conscience d'être dans un flashback. Et donc il voit la naissance de cet enfant, il voit l'avenir de cet enfant, il voit ce que l'enfant pourrait devenir, et on vient dans le présent, et pour avancer, eh bien, il faut le zigouiller. Et donc là, niveau impact émotionnel, je laisse imaginer ce que ça peut donner. Voilà. Donc effectivement, Thomas, allez voir son travail, il y a des tas et des tas de choses. Il a fait des conférences sur le sujet à Orchidée, on trouve ça sur YouTube notamment, qui sont hyper intéressantes. Voilà.
Si vous voulez le rencontrer, il sera parmi nous ce week-end. Et souvent d'ailleurs à nous faire jouer ses protos, ses jeux. Même chose, un autre interlocuteur qui est là parmi nous, j'en profite parce que on a notamment Adrien Toulon qui a travaillé sur ces mécanismes-là, qui dans un proto qu'il présente peut-être, je m'avance peut-être, utilise justement ces systèmes de flashback pour permettre aux joueurs de reprendre une capacité à jouer dans un système de tokens. Qui sont utilisés par les joueurs pour alimenter certaines actions qu'ils réalisent, eh bien à un moment le stock se vide. Et pour réalimenter le stock et repermettre aux joueurs de pouvoir être actifs sur leur univers, eh bien il fait jouer entre les joueurs des scènes particulières pour le joueur précis qu'il requiert. Et donc là ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de la table va être impliqué avec des interactions où ils jouent des personnages tiers. Donc d'une part, il y a obligation pour l'ensemble des joueurs de revêtir un autre costume à ce moment-là, et d'autre part, il y a une intention de dynamique du groupe qui est jouée par l'ensemble du groupe. Je vous laisse. Je crois, Manuel, que tu avais un élément à rajouter.
Ouais, on peut faire plein de choses intéressantes avec le jeu dans le temps, en fait. Si on va regarder du côté du cinéma, on a quelques références qui sont intéressantes à prendre. On peut faire du Memento, un des premiers films de voilà, de Christopher Nolan, merci beaucoup. Y a un jeu qui existe pour ça qui s'appelle Boule de neige, où on joue les scènes mais à sens contraire, c'est-à-dire qu'on joue la scène de fin d'une histoire, puis la précédente et ainsi de suite. On remonte le fil, ça permet de faire des choses assez intéressantes parce que du coup on a connaissance de la fin de l'histoire, enfin voilà, vous voyez bien quoi. Ça structure des parties vraiment différentes. On peut faire du un jour sans fin aussi, en jouant la boucle temporelle et en rejoignant la même journée pour donner des choses à explorer, notamment quand on fait jouer des petits bacs à sable où on a placé tout un tas de PNJ qui font des trucs à droite à gauche. C'est des choses qui marchent vraiment vraiment bien, qui se structurent différemment d'un scénario mais qui donnent des opportunités d'exploration un peu différentes aux joueurs. Donc il y a vraiment plein de trucs à explorer. Je sais pas si on a vocation beaucoup à avoir un jeu qui explore un truc tout le temps de la même façon, mais par contre se donner des opportunités de parties un peu spéciales comme ça, je pense que ça peut créer des trucs intéressants. ça peut créer des trucs intéressants. Tu peux faire des trucs marrants, genre une campagne qui se passe où il y a un saut dans le temps pour les personnages de un jour au début. Et ils savent pas pourquoi, ils se demandent ce qui s'est passé pendant une journée importante, par exemple. Ça peut être rigolo. Voilà, il y a plein de trucs, mais c'est des petites choses. De toute manière, je pense que c'est des choses à utiliser avec une certaine parcimonie. Soit à fond, vraiment à fond, soit avec vraiment de la parcimonie pour introduire du bizarre.
J'avoue que moi, je suis assez d'accord avec ça, et tous les univers s'y prêtent. Dans le sens où, moi, j'ai eu la chance d'ajouter une campagne très très longue, sur 12 ans de Cyberpunk, où à un moment, on a perdu une année. C'est barré. On sait pas pourquoi. On sait pas ce qui s'est passé, c'est barré. Et effectivement, ça a été forcément un enjeu fort de la poursuite de la campagne. Mais c'était absolument impressionnant de se retrouver du jour au lendemain à perdre une année. Et ça marche. Pour y avoir joué, ça marche. Et pourtant, Cyberpunk, c'est censé être un peu rationalisé. Je vous propose qu'on passe sur le temps du rêve pour qu'on puisse laisser un peu de temps à l'issue à un jeu de questions. Le temps du rêve, ça parle à pas mal dans pas mal de cas. On a parlé de rêve de dragon tout à l'heure. Est-ce qu'on a d'autres cas qui vraiment s'axent là-dessus? Je pense notamment à un truc que j'ai eu l'occasion de jouer, notamment à Loup-Garou, qui touche pas mal. On a d'autres sujets, je pense. Je vous laisse faire, les gars.
Bah, toujours dans un bon esprit de name-dropping. Il y a Histoire de fou, du même auteur que Rêve de dragon, beaucoup moins connu, où on joue des gens complètement cinglés, et les scénarios, en fait, c'est quand on joue leurs épisodes psychotiques, où il se passe des choses bizarres, donc ils changent de fringue, ils passent leur temps à essayer de choisir de ne pas croire à ce qu'ils voient, et ça transforme ce qu'ils voient. Enfin, là, on rentre vraiment dans quelque chose d'onirique, donc qui touche aussi quelque part à ce que fait Thomas, à ce qu'on trouve dans Rêve de dragon, où non seulement t'as un jeu sur le temps, mais de façon générale, comme tu joues la folie ou l'onirisme, ce qui est grosso modo la même chose narrativement, tu es dans une déstructuration du réel. Alors le temps, c'est sûr que c'est le temps et l'espace, c'est un peu les gros machins, mais tu peux vraiment déstructurer plein d'autres choses, croiser trois fois le même bonhomme mais qui est habillé différemment et qui a le même nom, qui a un nom différent à chaque fois, qui est habillé différemment, mais en fait c'est quand même le même, c'est des trucs, enfin tu peux vraiment tout casser. Et ça produit des effets d'étrangeté et de bizarre qui peuvent être très très déstabilisants, donc ça demande à ce que tout le monde soit bien ok sur ce qu'on va jouer. Faut faire attention parce que tu peux vite partir dans un trop qui devient grand guignolesque, donc c'est des équilibrages assez délicats, mais on peut vraiment tester plein de trucs, et pour le coup effectivement dans l'idée d'être dans un univers onirique, ça ouvre complètement des portes sur toutes ces déstructurations là.
Ce qui est très sympa aussi, c'est quand tu vas jouer à la fois sur ce temps du rêve et sur la notion de multivers, puisque tu vas alterner des moments dans un monde classique normal et des moments dans le rêve où le temps va être complètement différent. Par exemple, le lancement d'une campagne de Changeling à l'époque victorienne qu'on avait joué, on avait joué une espèce de prologue pendant lequel les personnages étaient enlevés par des fées, vivaient à peu près 10 ans enfermés, maltraités par ces seigneurs féeriques complètement fantasques, et réussissaient à s'échapper. Et on avait commencé la partie en jouant le moment où ils réussissent à s'échapper et où ils arrivent dans le Londres victorien. Et ce que j'avais fait en tant que meneur de jeu, c'est qu'en fait, dans le Londres victorien, ne s'était passé qu'une journée, voire que quelques heures, alors qu'eux avaient vécu 10 ans de différence. Et le moment de confrontation, quand ils cherchent à rentrer chez eux et qu'ils se rendent compte qu'ils ont été remplacés, mais qu'en fait, il n'y a quasiment pas de temps qu'à passer, c'est un truc qui est très sympa à jouer aussi. Et il y a plein de choses à faire autour de ça, c'est-à-dire autour d'un déroulement différent du temps entre deux endroits. J'ai besoin d'aller dans tel endroit qu'il y a dans le rêve, j'ai besoin d'aller dans le rêve. Ok. Le problème, c'est que chaque heure que je passe dans le rêve, c'est 10 ans dans le réel. Combien de temps je vais y passer? Et là, tu as des mécaniques ludiques à faire qui sont très, très, très intéressantes sur une idée de monnaie qui devient le temps. Alors, j'en parle d'autant plus volontiers que hier soir, on a fait une émission dans laquelle on a fait une création collective de campagne de jeu, et que un des axes sur lesquels on est parti, et c'est un pur hasard parce qu'on a tiré des mots-clés au hasard pour créer le truc, c'est justement ce décalage entre une espèce de monde cyberpunk hyper rapide où tout va très très vite et un monde temporel, enfin une espèce de matrice de rêve justement, dans lequel le temps passe quasiment pas, on sait pas vraiment s'il existe, etc. Et donc on va jouer dans ce jeu-là avec une monnaie temporelle qui est: si je passe du temps dans le rêve, qu'est-ce que ça me coûte dans le réel? Est-ce que je laisse passer des opportunités, etc., etc. Voilà.
En fait, le fait de jouer dans le rêve permet d'introduire beaucoup de mécaniques, notamment justement de temps, de discontinuité entre le temps du rêve, entre le temps réel. Je joue aussi, moi, sur ces mécaniques-là, avec des temps en fait, que mes joueurs peuvent passer dans un coma profond, tout simplement, par inhalation de produits et autres. Bref, l'avantage, voilà, c'est de donner une dimension aussi parfois oppressante en fait, de l'utilisation de ce temps de rêve. C'est-à-dire que oui, bah, en fait, une journée passée dans le rêve, en effet, ça peut être 10 ans dans la vie réelle. Donc si je mets trop de temps à sortir de mon rêve, et parfois, enfin, ce que j'aime surtout jouer, moi, de mon côté, c'est plutôt sortir de mon cauchemar, tout simplement, c'est, voilà, ce cauchemar devient encore plus oppressant. Parce qu'il me donne une limite de temps de sortie. Je sais que je suis dans un cauchemar. Je sais que, normalement, je n'ai rien à craindre, puisque je dors. Mais le problème, c'est combien de temps vais-je dormir ? Et là, ce temps est un danger, en fait. On joue avec. Et on lui donne une nouvelle dimension.
Et c'est vachement intéressant parce que ça permet de rebondir sur une idée qu'on a très souvent en jeu de rôle. On va se dire, on va faire un scénario bizarre. Et puis à la fin, on dira au joueur, oh, c'était un rêve. Et alors ça, c'est, enfin, honnêtement, c'est un peu pourri, quoi. On a l'impression de s'être impliqué pendant toute la partie pour rien. L'effet est nul, alors qu'avec la mécanique que tu présentes, on réhabilite complètement l'idée.
C'est ça, c'est-à-dire que le fait, en fait, de dire « Ah, bah, c'était un rêve » peut avoir une dimension hyper frustrante pour le joueur. Alors que donner à ce rêve, ce cauchemar, une conséquence intrinsèque sur le réel, une emprise au final, donne un intérêt supérieur au joueur.
Alors j'avais vu un truc, je sais plus où c'est. C'était une partie qui se jouait en deux temps. C'est-à-dire, bon, on avait un scénario d'introduction avec des règles spécifiques très simples qui se jouaient à un moment donné. Et puis plus tard, une campagne qui se mettait en place avec une autre typologie de règles, mais où en fait, la subtilité, c'est qu'il y avait des interactions entre les deux jeux. Et ça, du coup, c'est extrêmement intéressant parce que la première partie qui a été jouée par les joueurs, vu qu'elle est décontextualisée par le gameplay, se retrouve avec une implication dans la suite, et les joueurs font des raccords, et ça vient lentement. C'est-à-dire qu'il y a forcément des moments où intellectuellement, les mecs se disent « mais ça me rappelle un truc ». Alors, et pourtant, il y a la distance du gameplay qui fait qu'on a du mal à remettre en place les vrais liens entre les deux histoires. Et toucher deux gameplays différents, c'est quelque chose qui se fait assez rarement, mais il ne faut pas hésiter à faire des petites parties avec des jeux simples en amont, pour pouvoir créer ça, en fait, une dynamique.
Ça, on l'avait... Enfin, moi, j'y ai pas participé, mais le groupe dans lequel je jouais l'a fait sur un jeu super qui s'appelle Sur les frontières, écrit par monsieur, là, où, justement, on jouait une partie, puis il y a une pause. Et pendant cette pause, quelques joueurs, certains qui jouaient avec le groupe habituel, d'autres non, ont repris le camp adverse de nos personnages, mais dans un autre jeu. Hein, et du coup, on a vu revenir leur perso de ce jeu-là dans la campagne, et ça a créé des effets très très rigolos. Hein.
Un jeu avec lequel j'ai joué aussi sur cette mécanique-là, c'est Sion, en fait. Où mes joueurs, j'ai fait une interruption en fait en cours de campagne, et je leur ai fait jouer, parce que Sion, vous pouvez normalement, c'est un peu du moderne, un peu futuriste, etc. Où là, au contraire, je leur ai fait jouer une scène, parce qu'en tant que fils de Dieu, ils peuvent avoir des souvenirs aussi d'éléments de la mythologie, où je leur ai fait rejouer plutôt en introduction de scénario, une scène de la mythologie grecque, qui ont eu des événements qui ont découlé au final sur ce qu'ils allaient vivre dans le présent. Et j'ai construit mon deuxième scénario à partir des conséquences des personnages qu'ils incarnaient dans le premier, qui n'étaient pas du tout les mêmes, que je leur ai donné, en fait, avec d'autres capacités, etc. Je leur ai dit, tiens, bah, tu revis ça avec tel personnage, etc. Et les conséquences ont eu lieu après, dans le futur. Et donc, ils ont payé, entre guillemets, les conséquences de leurs actes.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter, messieurs ?
J'ai un petit truc à ajouter, rapide. Dans les différents effets temporels dont on n'a pas parlé, il y a l'idée qui est proche du flash-forward, qui est l'idée de la scène potentielle. C'est un truc que fait Thomas aussi. Et c'est une scène que j'ai... Enfin, en gros, on va décrire plusieurs issues possibles à une situation... Et on va choisir une de ces issues, et peut-être qu'elle aura lieu, peut-être qu'elle n'aura pas lieu, etc. Par exemple, dans un jeu qui s'appelle Itrasby, qui joue beaucoup sur le côté onirique, justement, on avait fait une scène comme ça, où on tire une carte. La carte nous dit, maintenant, chacun des joueurs va proposer une issue à cette scène, et toi qui as fait tirer la carte, tu choisis laquelle se produit. Et ça, c'est assez génial d'explorer comme ça plusieurs futurs possibles et ensuite d'en choisir un et de s'orienter comme ça. Et donc, pour jouer avec les idées de multivers, en fait, c'est presque changer de multivers, changer d'univers simplement par rapport au choix qu'on fait en tant que joueur. Alors, c'est pas le personnage, c'est le joueur.
Il y a un jeu qui permet vraiment d'expérimenter facilement avec la délinéarisation de l'histoire. C'est un jeu qui s'appelle Fiasco de Jason Morningstar. Il y a rien qui oblige dedans, hein, mais la façon dont fonctionne le jeu, c'est un jeu sans meneur avec des mécaniques très 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 légères, fait qu'on peut très très facilement introduire des flashbacks, des flash-forward, pendant ce temps-là à Acapulco, vraiment vraiment avec une très très grande facilité, et ça permet d'expérimenter sans risque, parce qu'en plus c'est un jeu qui joue en une session. En tant que joueur, en tant que meneur, je recommande vraiment de s'essayer sur ce genre de choses, parce que en tant que rôliste, surtout sur du jeu traditionnel, on n'a vraiment pas l'habitude de délinéariser l'histoire, et c'est un exercice pas naturel au début, et je pense que c'est bien de s'exercer, en fait, tout simplement, et de s'exercer à le faire ensemble avec les gens qui en jouent habituellement, parce que ça va vite sinon avoir des gens d'un peu mauvaise volonté qui vont casser un flash forward en disant ah ouais, on nous a dit que ce serait ça, donc en fait on va aller ailleurs, ou en tant que meneur ou meneuse d'être un peu tyrannique pour resserrer sur un étau, enfin sur un chemin qu'on a voulu placer. Ça demande quand même un peu de laisser aller, de délinéariser tout ça et de confiance dans les autres joueurs et joueuses, donc ça vaut le coup de s'exercer. Fiasco, je trouve, est un bon jeu pour ça. C'est un bon jeu tout court, qui plus est, donc achetez-le.
Les deux exemples là sont propices à la coopération, notamment sur la l'écriture, la composition du scénar, donc tant mieux, c'est encore mieux pour les MJ les plus flemmards d'entre nous. Je vous propose qu'on arrête ici. Si vous avez des questions,
est-ce que c'était clair, parce que je suis pas sûr en fait.
Est-ce que vous pouvez bien agiter, parce que on voit vraiment que dalle. Je vois une main derrière le poteau, c'est très très drôle ça.
Bonjour, merci pour du coup cette table ronde. Ce serait pour savoir, mettons dans un univers de médiéval fantastique, comment intégrer des personnages joueurs capables de manipuler le temps, par exemple en l'arrêtant, en l'accélérant, en le décélérant, sans totalement déséquilibrer le jeu.
Alors là, j'ai dit en tant que meneur, c'est plus à toi de fixer la limite. Soit la limite a été fournie par les outils que tu as de gameplay, soit sinon c'est toi qui instaure les limites et la contrainte avec des choses qui vont être rationnelles, notamment de puissance du personnage joueur, etc. Arrêter le temps, tu peux dire ok, tu stoppes le temps, mais pendant un laps de tant de secondes. Un exemple concret, dans Donjons et Dragons, t'as un sort qui s'appelle arrêt du temps et qui te permet de faire des actions pendant X rounds, mais selon ta puissance. Voilà. Donc c'est à toi de savoir cadrer les choses avec parcimonie, hein. C'est le rôle aussi du maître du jeu, c'est de donner un cadre afin de s'assurer que t'es pas un trop gros déséquilibre.
Ça dépend si l'équilibrage c'est une question déjà, parce que c'est pas le cas dans tous les jeux et c'est pas forcément un problème qu'il y ait un personnage un peu pété qui puisse faire n'importe quoi. Dans l'absolu, ça peut être aussi un concept de jeu et tu peux travailler là-dessus. C'est vraiment d'abord, est-ce que tu veux un jeu équilibré, auquel cas effectivement on va être dans une approche un peu plus tactique. Il y a les donjons qui étaient cités tout à l'heure, qui pour le coup a pas mal balisé les choses. Tu limites les effets, ou tu limites la capacité à produire les effets. Tu peux arrêter le temps, ok, mais tu peux le faire une fois par an, vas-y coco. T'as plein d'outils comme ça. Si tu veux un équilibrage, en gros, plus un effet est puissant, plus il faut limiter sa possibilité d'utilisation en ampleur ou en régularité.
Et tu peux aussi jouer sur les conséquences éventuelles. Voilà, tu peux introduire des conséquences à ces manipulations temporelles. Par exemple, je crois que c'est dans Donjon 2, tu as un supplément qui s'appelle Chronomancien, qui propose justement de jouer des mages manipulateurs de temps. Je crois que le truc est complètement cassé du point de vue équilibrage, hein. Je suis pas sûr, je m'en souviens plus très bien, mais il y a un des trucs qui est créé dedans, c'est que le temps a des gardiens, et si tu abuses de tes pouvoirs, bah, tu vas te faire taper derrière par ces gardiens. Donc tu vois, en générant des conséquences vraiment à l'intérieur du jeu, tu vas générer effectivement une puissance très forte pour les personnages, mais quand ils l'utilisent, derrière ils doivent en répondre, donc ils vont devoir réfléchir un peu à ça. Voilà.
Ok, merci.
Bonjour, merci pour la présentation. Je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai suivi derrière l'écran.
comme tout bon maître du jeu qui se respecte. Deux exemples pour la question précédente, c'est dans le jeu Ultra de John Grumph, qui est très bien. Il y a une capacité qui permet de se reposer en un laps de temps très court, mais si on l'utilise trop longtemps, trop souvent, on vieillit. Et un autre qui permet de prédire l'avenir, qui celle-là est un petit peu déséquilibrée, je trouve, mais qui permet de jouer toute une scène et puis à la fin d'utiliser cette capacité pour dire en fait c'était une prévision de l'avenir et on peut repartir sur d'autres choses. Mon intervention c'était pour citer un jeu que j'ai découvert il y a quelques années et que j'adore, qui correspond très bien à cette thématique, qui s'appelle Microscope. Microscope de Ben Robbins, qui est disponible qu'en anglais je crois, mais qui permet vraiment de jouer avec le temps, puisque en fait c'est un jeu sans maître du jeu dans lequel on crée une frise chronologique, une grande histoire épique, et ça s'appelle Microscope parce qu'on va aller zoomer sur une période, un événement, une scène précise, on va aller jouer dans cette scène, et en fait ce mécanisme permet un petit peu comme on le décrivait de s'affranchir de tout ce qui est un peu bizarre. S'il y a un joueur qui a joué un personnage mais il l'a joué un peu mal, ou alors il a oublié un truc et du coup l'action du personnage était incohérente, et ben quelqu'un d'autre va se poser la question: pourquoi est-ce qu'il a joué comme ça et pas autrement? On va aller dans le passé et on va aller jouer une autre scène qui va expliquer pourquoi ça fonctionnait comme ça. Donc voilà, Microscope de Ben Robbins, l'ensemble de son œuvre est très chouette, et ce jeu-là en particulier.
Merci à toi. Est-ce qu'on a une autre question? Vraiment très rapidement.
Bonjour. Ce serait une question par rapport aux flashbacks. Est-ce que les flashbacks, c'est plutôt des moments joués ou des moments qui ressembleraient presque à des cinématiques de jeux vidéo?
Alors pour moi, le flashback, il faut le jouer. Il faut le faire jouer. Parce que c'est important. Il faut que le joueur ait l'impression d'avoir été acteur de l'action plutôt que de la subir. Il n'y a rien de plus frustrant à mes yeux pour un joueur que de sentir qu'il subit l'action, tout simplement.
À l'opposé, si c'est le joueur qui raconte son flashback, on n'a pas besoin de le jouer parce qu'il ne va pas être frustré, c'est lui qui en est l'auteur. En fait, je dirais que ça dépend de ton économie de temps, combien de temps tu as dans ta partie. Est-ce que tu as le temps de jouer la scène ou est-ce que c'est sur un détail annexe? Et du coup, c'est juste intéressant de dire que, ah bah oui, en fait, ce personnage-là, je l'ai rencontré à cette occasion-là, paf, je raconte mon flashback, j'ai mon effet mécanique et c'est fini. Ou alors jouer la scène.
Ouais, moi je suis d'accord, il vaut mieux les jouer. De façon générale, le principe des cinématiques en jeu de rôle, c'est pas une très très bonne idée. Le principe des cinématiques tout court, à mon sens, c'est pas une très très bonne idée. Autant dans un jeu vidéo, ça permet de démontrer des qualités graphiques, mais en jeu de rôle, on n'a pas trop ce problème-là. Et effectivement, ce que tu veux créer quand tu joues, ou quand tu mènes, ce qui est pareil, c'est générer de l'implication. Et l'implication, tu ne peux la générer qu'en faisant agir les gens, en leur donnant le pouvoir de décider de ce qu'ils vont faire de leur histoire. Enfin, c'est quand même la première chose qu'on dit à propos du jeu de rôle. C'est comme un roman, sauf que tu peux décider ce que vont faire les personnages, quoi. Bah, si tu les laisses pas décider, c'est juste comme un roman. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux faire des romans. Et pour le jeu de rôle, privilégier le fait de pouvoir agir. Parce qu'en plus, tes joueurs, ils vont te surprendre, ils vont t'emmener dans des directions que tu n'avais pas prévues. Et d'un seul coup, ça va devenir aussi une partie surprenante pour toi. Et ça, c'est bien.
D'accord, mais du coup, s'ils prennent une décision pendant ce flashback, est-ce que ça peut pas un peu influencer aussi le background qu'ils avaient écrit par rapport à leur personnage?
Ah bah si, on espère bien, au contraire, c'est fait pour ça.
Enfin, le faire changer de direction par rapport à...
Alors il faut savoir un truc, c'est que la mémoire fonctionne de manière à créer des faux souvenirs de façon extrêmement efficace. Et donc si tu veux une base scientifique pour expliquer pourquoi ce que tu as raconté au départ, c'était pas la vérité, bah c'est simplement qu'on se souvenait pas vraiment de ce qui s'est passé. Voilà.
D'accord, merci.
Bon, je vais jouer le rôle de frustrateur, donc je vais mettre un terme.
On peut
je
pas faire une petite extension temporelle?
Bah, j'aimerais, mais tu sais bien que c'est beaucoup trop consommateur en matériaux et mon rapport à l'écologie me l'interdit. Je laisse juste une petite dernière intervention à Manuel qui a un petit coup de pub à faire.
Oui, c'est vrai, j'ai oublié, je dois faire de la pub. Si vous êtes là demain, et après-demain d'ailleurs, je vais en parler aussi. Si vous êtes là demain matin, j'anime un atelier de création de jeux de rôle. Si tout se passe bien, ça dure 3 heures. À la fin, vous repartez, vous avez créé votre jeu. Alors, ce sera pas très long parce que ce sera des jeux qui tiennent sur une page. Moi, j'économise le papier en ce moment, et donc je vais vous montrer je vais vous montrer. Si vous savez pas déjà, j'espère que vous savez déjà, qu'on peut faire des jeux en une seule page qui sont vraiment très très bien, et que vous aussi. Et si vous avez jamais créé de jeu de rôle, bah ce sera vos premiers pas de game designer. Et si vous l'avez déjà fait, c'est un bon exercice. Donc faut surtout surtout pas hésiter. Et vendredi matin, même heure, même endroit, la jeune femme qui se trouve là-bas, voilà, qui fait coucou, qui s'appelle Eugénie, qui n'est pas MJ mais et qui a un blog, va animer un atelier pour apprendre à jouer. Parce qu'on fait plein de trucs pour apprendre aux gens à créer des jeux, pour apprendre aux gens à être des bons meneurs de jeu, mais on les aide pas beaucoup à être des bons joueurs. Et elle est pas d'accord non plus. Okay. Et pour autant, il y aurait. Et là, en l'occurrence, ce sera un atelier sur comment on présente son personnage, comment on peut présenter son personnage, comment on peut rendre ça intéressant. Enfin, elle sait mieux que moi. Moi, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, ça vaut le coup aussi parce que apprendre à être un meilleur meneur, c'est cool, mais apprendre à être un meilleur joueur, c'est très très cool aussi.
Il n'y a pas beaucoup de place.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de place dans les deux cas. Vous pouvez vous inscrire à l'accueil du pôle ludique. Et c'est gratuit.
Merci, vous avez fait tout le taf.